voilà. Bon, donc, je dirais que moi, je ne travaille pas spécifiquement à la question de l'écriture de soi, enfin, ou de la production d'écrit, de la didactique et de la pédagogie de la production d'écrit, mais plutôt à la lecture du texte littéraire. Bon, et naturellement, on rencontre la question de la production d'écriture dans le cadre de l'apprentissage de lecture littéraire, hein, de la confrontation au texte littéraire. Alors, c'est donc un petit peu... je ne suis pas, si vous voulez, c'est pas mon domaine, absolument mon domaine de recherche, hein, je voulais le dire, le préciser. Bon, disons que c'est cela. Il s'agit un petit peu, dans ce que je vais vous présenter, de permettre aux élèves de faire émerger un peu une image de soi en tant que sujet lecteur, que sujet scripteur, et bien sûr de se construire aussi à travers ses activités. Alors... Par rapport à l'écriture, disons l'autobiographie, par rapport par exemple à ce que travaille Marie-Claude, hein, Panlou, disons que là, moi, je situe mes activités dans un espace qui n'est pas l'espace privé, qui est l'espace de la classe, hein, qui n'est pas un espace sauvage. Les élèves, je n'ai pas non plus travaillé, si vous voulez, dans le cadre d'une organisation freinée. Par conséquent, il s'agissait de commandes d'écriture passées à un moment donné. Aux enfants, aux élèves, mais je crois que l'activité de l'élève au sein de la classe se situe toujours dans une espèce de... Enfin, on pourrait en tout cas le favoriser, se situe dans un espace, dans une lisière un peu, entre justement le domaine privé et le domaine public, hein, que constitue la communauté de la classe. Alors, dans quelle mesure, hein, moi, en tant qu'enseignant, j'ai la maîtrise de cet espace lisière, je sais pas. Bon, en tous les cas, disons que je fais tout pour en favoriser l'installation. Et je ne prétends pas en avoir la maîtrise. Bon, on en discutait après l'atelier de ce matin avec Marie-Hélène. Que faire, hein, des textes? Je crois que ces textes-là, qui sont produits dans le cadre des activités que je vais présenter. En tous les cas, il serait souhaitable que les élèves puissent y retourner, qu'ils en gardent une mémoire, qu'ils en gardent des traces, qu'ils puissent les mettre peut-être un petit peu en circulation, circulation réduite, je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, je n'ai pas tranché la question. Que faire de ces textes? Comment? Bon, je les propose, et c'est déjà pas mal. J'en propose l'écriture. Alors, disons que ce qui se passe actuellement dans l'enseignement et concernant plus précisément l'enseignement de la littérature, il y a une notion qui émerge déjà depuis un certain temps, hein, c'est celle de sujet lecteur. Bon, elle a émergé déjà depuis longtemps sur un plan théorique dans le cadre de l'esthétique de la réception et des réflexions qui ont tourné autour de cela. Disons que on tarde peut-être encore à en voir la mise en application, la mise en œuvre dans les classes. Et c'est un petit peu à ça que j'essaie de travailler dans le cadre de la recherche menée ici. Donc, et de façon complémentaire, comment installer... Alors, en complément à ce sujet lecteur, un sujet scripteur, et à conjuguer, amener à conjuguer les deux postures. Disons que pour accorder un véritable statut de sujet, et je préfère sujet qu'apprenant, en l'occurrence, aux élèves, il faut certainement interroger les formes d'enseignement qui sont traditionnellement les nôtres, en élémentaire, et peut-être plus encore, en secondaire. Et permettre... aux enseignants de s'appuyer, de provoquer l'implication des élèves et de s'appuyer sur cette implication personnelle pour les apprentissages, pour permettre à chacun de cheminer vers des apprentissages nouveaux, une construction nouvelle de soi en tant qu'élève. Alors... je vais vous présenter quelques dispositifs pédagogiques et didactiques mis en place dans le cadre de la lecture de textes. Disons que avant cela, je vais citer, décidément on aura bien parlé d'eux, Dominique Bucheton et Jean-Charles Chaban, un petit peu en exergue, et je citerai un passage de ce qu'ils disent sur leur travail qui concerne les écrits intermédiaires. Alors, voilà ce qu'ils disent. Il faut être quelqu'un pour dire quelque chose, et symétriquement, ce quelqu'un se construit par les pratiques langagières. Je deviens quelqu'un parce que je dis à d'autres quelque chose qui m'appartient et en même temps qui m'élabore. Voilà pour ce qui est du versant production. Et moi, je reformulerai en ce qui concerne la lecture en disant « Il faut être quelqu'un pour lire quelque chose. Et je deviens quelqu'un parce que je dis à d'autres et à moi-même quelque chose qui m'appartient en tant que sujet lecteur et en même temps qui m'élabore en tant que sujet. » Voilà un petit peu la perspective dans laquelle je me situerai ici. Donc, ce que j'ajouterais, c'est que, et on l'a déjà un petit peu évoqué, on n'a jamais fait le tour d'un texte à première lecture. Et que l'appropriation d'un texte, ça demande du temps, ça passe par des rejeux de la relation personnelle passée avec le texte, rejeux qui apparaissent nécessaires, notamment du fait de la confrontation de cette relation passée au texte à celle des autres passée avec ce texte-là. Donc, grosso modo, si vous voulez, comme dynamique, en ce qui concerne la démarche appliquée dans les classes, il s'agit de faire alterner temps de mise en confrontation et tant de repli sur soi, de révision, de relecture de soi-même en tant que lecteur. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'amène les élèves à produire des petits jets d'écriture qui sont des écritures en jeu, qui sont des écritures qui s'apparentent à l'autobiographie de lecteur, bon, qui ont lieu à différents moments, qui peuvent avoir lieu en amont, pendant et après le travail conduit sur le texte. Mais ces écritures successives n'ont pas pour but, si vous voulez, de s'occulter successivement les unes les autres, bien au contraire, mais de se tisser les unes aux autres, de façon que jamais on ne demande à un élève à renoncer à soi-même en tant que sujet, en tant que lecteur, hein, à renoncer à une première lecture, mais plutôt à l'amener à raccommoder c'est justement ces différentes relations passées avec le texte. Donc c'est plutôt dans une perspective de raccommodement successif que de recouvrement successif que j'envisage ces différents travaux d'écriture. Alors, je vais vous donner quelques exemples de dispositifs, et j'ai essayé, si vous voulez, pour mon intervention ici, de donner d'autres exemples que ceux que je donne dans l'article Repère 34, un peu par honnêteté, là aussi, vis-à-vis de vous. Alors, je suis revenue, on a chacun ces vieux démons, ces démons, enfin, qu'on traîne depuis longtemps, et quand on est vieux, ils sont vieux, les démons. Je suis revenue sur un texte qui est peut-être un texte fétiche pour moi, c'est L'enfant et la rivière de Bosco. Alors, par rapport à la conversation à peine entamée ce matin, moi je dirais que c'est pas un texte, justement, ça n'est pas un texte uniquement sophistiqué, l'écriture n'est pas simple chez Bosco, bien entendu, elle n'est pas naïve, hein. Mais je dirais que ce texte me plaît beaucoup quand il s'agit de le faire lire à des élèves, parce que il ouvre un espace au lecteur. Et le lecteur est invité vraiment à habiter ce texte. Et si je l'ai travaillé souvent avec des élèves, c'est parce que beaucoup m'avaient dit, enfin, parmi mes étudiants à l'UFM, que vraiment ce texte-là, ils l'avaient fait en classe, puis ça les avait embêtés. Alors ça me faisait de la peine. Alors je me suis donc posé un petit peu la question des dispositifs qui permettraient de faire découvrir ce texte aux élèves sans provoquer l'ennui. Donc ce que j'ai mis en place, si vous voulez, c'est un accompagnement, je dirais, doux à l'écriture, à la lecture en classe, et qui repose en partie sur des activités d'écriture. Et puis, quand on est formateur ou comme ça responsable d'une recherche, on échange bien sûr avec d'autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça a donné l'idée de dispositifs un petit peu différents à d'autres enseignants. Donc, je vais mêler un petit peu les propositions de dispositifs. Et je vais commencer par vous présenter celle d'une institutrice, enfin d'une, je devrais dire professeure d'école maintenant, avec qui nous travaillons et donc qui fait lire L'enfant et la rivière dans une classe de CM2. Et vous avez ce premier document double page. Alors voilà sa consigne. Disons que le professeur des écoles, je vais dire l'institutrice, ça ira mieux, a lu les premières pages de L'enfant et la rivière, a oralisé. Les élèves n'ont pas le livre. Et elle s'est arrêtée au moment où le mot rivière est prononcé, et elle leur demande de dire ce que la rivière représente pour eux. Et donc voilà les textes produits en 2 minutes hein, par les élèves. Donc il s'agit bien sûr de convoquer un petit peu l'univers, hein, l'imaginaire du lecteur à l'orée de la lecture de ce roman de Bosco. Alors, je vous laisse parcourir un petit peu les productions d'enfants. Christa, tu pourrais mieux en parler que moi, puisque la classe est dans un village. Hein. Non,
En fait, c'est dans la classe de Christine Fouchard, et le dispositif que je vous présenterai après, c'est aussi un dispositif qui est mis en place dans sa classe. Donc, c'est une zone, comment on va dire ça, c'est à Vesoul, c'est dans la banlieue, donc c'est Quincé. Et c'est pas la banlieue, l'image des banlieues qu'on a traditionnellement. Hein. Là, c'est une banlieue à Vesoul. Vous imaginez ce que c'est. Donc, c'est en fait une zone pavillonnaire avec des parents. Je vais dire qui sont plutôt de milieu. Alors maintenant, on a beaucoup de mal à évaluer. C'est nettement en dessous de 4 000 euros, hein, si c'est ça la norme. Donc, des gens qui travaillent à deux. Mais qui sont généralement employés chez Peugeot, puisque ce seul travail à Vesoul où il y a un taux de chômage très important, c'est Peugeot. Et sinon, les mères infirmières, vendeuses, enfin voilà. C'est ce milieu-là, donc des gens très engagés pour l'éducation de leurs enfants, et aussi propriétaires, enfin qui essaient de rembourser leur... Ah ben Vesoul, c'est l'île verte, Vesoul, c'est l'île verte, c'est-à-dire que elle, la banlieue de Vesoul, c'est déjà dans Vesoul, on ne se rend pas compte, mais on est déjà dans la verdure, quand on est dans Vesoul même, alors à la périphérie de Vesoul, c'est vraiment la campagne. Voilà.
Bon, mais ce qui m'intéresse, je sais pas, vous pouvez réagir vous-même, dans ces écrits, c'est que, immédiatement, je veux dire, les enfants convoquent des stéréotypes, alors qu'ils se sont construits à partir de lectures, à partir de films, je sais pas, je dirais peut-être à partir de photos de calendriers des postes, hein. Donc des stéréotypes constitués comme ça, et puis des souvenirs personnels, des rêves. Des souvenirs personnels hein, qui renvoient à la réalité, des souvenirs de, enfin des rêves inventés à ce moment-là probablement. On a donc une espèce de mixte tout à fait intéressant. Et par rapport, enfin, je pensais à ce que tu nous as présenté hein, sur la rédaction, modèle Troisième République. On voit bien que ici, les élèves n'ont pas été habitués, enfin, n'ont pas été formés à cela, mais finalement font ce mix là aussi hein, de souvenirs personnels réels, vrais, on va dire, et puis de choses construites. La rivière me rappelle des vieux films, car on voit des femmes qui font la lessive, par exemple Pinocchio. Alors, je crois que le vieux film en question, ça doit être l'adaptation de comment il s'appelle l'Italien, Comencini. Il me semble, ça doit être ça. Et pourtant, ça n'est pas, je dirais, l'élément le plus important dans l'histoire de Pinocchio, hein, bon, enfin dans le film de Pinocchio. Ça me rappelle aussi des pique-niques ou des campements en famille. J'aime beaucoup la rivière, car c'est un des seuls endroits où l'on est paisible. Et là, il y a quand même la rivière qui rencontre l'imaginaire, qui est un élément constitutif, évidemment essentiel, hein, de l'imaginaire de chacun. Bon, et l'autre qui met carrément le mot rivière pour moi, un rêve, deux, un souvenir. Lui, il affiche carrément, hein, les deux sources d'inspiration pour son écriture. Il peut peut-être y avoir des choses parfois très, très personnelles, très profondes, mais énoncées, peut-être sur un mode qui n'est pas explicite. Mon père m'a raconté que lors d'une randonnée, je ne suis pas encore née, entre parenthèses, où ils traversaient une rivière avec ma mère, ils sont tombés dedans. Bon. Je dirais que ça renvoie peut-être un petit peu à la proposition d'écriture de Marie-Hélène, hein, raconter votre naissance. On n'est peut-être pas trop loin de cela. Enfin, c'est une autre forme de réponse. Disons, dans le cadre, hein, d'un moment où on se trouve là, sur le point de franchir la frontière qui nous sépare du texte, hein, de l'imaginaire du texte, et compressant en tous les cas, de l'univers du texte compressant. Moi, j'avais fait autrement il y a de ça un bout de temps, et j'avais demandé aux enfants, à l'issue de la lecture du premier chapitre, et là aussi j'avais pas mal oralisé moi-même, on s'était débrouillé comme on avait pu, dans le premier chapitre, hein, choisi entre Pascalet, Tante Martine ou Bargabeau, le personnage qui t'intéresse le plus, c'est dit ce dont tu te souviens à son propos, est-ce que tu en penses toi-même ? Et puis dit ce dont tu te souviens à propos de la rivière. Et vous avez les textes, hein, je vous les ai mis, Julie. Non, attendez, c'est... C'est... J'ai choisi Bargabeau. Vous l'avez, la photocopie ? J'ai choisi Bargabeau, le pêcheur. C'était un homme grand et sec, à la peau noire. Il avait le visage en lame de couteau. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette petite, là, de CM, restitue le texte quasiment littéralement, alors qu'elle n'a pas le livre sous les yeux. Hein, c'est simplement de mémoire. Et, réaction personnelle, j'aurais voulu avoir la même impression que Pascalet en le voyant, la peur quand Bargabeau était présent et le regret quand il était parti. Bon, il y a donc là une lecture tout à fait projective. Alors là, que moi, je favorise absolument, hein, dans le cadre des lectures, sans laquelle on ne peut rien construire, qu'on ne nous parle pas d'illusions référentielles, c'est pas de ça qu'il s'agit, simplement cet enfant fait scène, développe scène, vous avez compris, fait jouer, construit quelque chose à partir des mots qu'elle a entendus. La rivière, elle était étrange et calme, elle avait des buissons où Pascalet s'est caché, des arbres et des trous morts. Alors ça, les trous morts, ils avaient tous retenu ça, avaient focalisé un peu là-dessus. Je citerai un deuxième exemple, donc Vanessa, tante Martine, elle trotte souvent dans les combles et quand les parents de Pascalet sont là, elle se tient tranquille. Je l'ai choisie car moi aussi j'adore fouiller un peu partout. Bon, je l'imagine, etc. Et là, on voit à quel point, je dirais, il y a d'emblée rencontre de soi avec un des personnages, sans qu'il y ait confusion, mais disons que le lecteur peut écrire sur soi en écrivant sur un personnage à partir d'une telle consigne, un tel dispositif, ça ne pose aucun problème. Dans un deuxième temps, je leur avais demandé de lire chez eux un chapitre, bon, parce que c'était les vacances, le chapitre central. Alors là, c'est la robinsonnade proprement dite. Et je leur avais simplement demandé de dire le passage qu'ils préféraient. Et bien sûr, j'aurais dit, vous pouvez simplement citer les pages. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils ont plaisir à reformuler. Et aucun n'a même... Enfin, sauf un, il y en a un qui avait recopié des passages, mais sinon, ça passe spontanément par la reformulation. Le moment que je préfère, c'est le moment où il y a le racal. Pourquoi ? Parce qu'on est pressé de savoir ce que c'est qu'un racal, c'est bien. Il y a beaucoup de suspense. Ils ont peur. C'est bien comme passage. Et j'ai aimé quand Gazzo devient ami avec Pascalet, il y a beaucoup d'amitié entre eux. Puis d'autres, ce seront sur des éléments, par exemple le vent ici, l'air. Les meilleurs moments de bonheur sont le premier jour passé dans le bras mort, car c'était le plus beau de la vie de Pascalet. La découverte des coffres, car elle permettait de vivre pendant plusieurs jours. Et la rose des vents en cuivre, car elle avait 32 pointes et portait 16 noms de vents. Il est assez intéressant de voir que plusieurs élèves dans cette classe vont se focaliser sur cette idée de vent. Et ce qui apparaît, c'est que chacun a peut-être un élément qui lui est cher, entre l'air, le feu, etc., et va lire le texte à partir de de cette perspective-là, on va dire. Voilà. Et comment ça s'est terminé, si vous voulez? Bon, ils ont lu le texte. On a fini de lire le texte ensemble. Et je suis revenue 2 mois après en leur proposant, et c'est un dispositif que j'ai repris par la suite, en leur proposant un tableau où j'avais simplement mis des mots-clés. Alors bon, les mots des, enfin le nom des éléments, le vent, air, eau, etc. Des verbes qui renvoient à des... au sens, hein, sentir, toucher, etc., goûter, et puis des mots comme amitié, sommeil, enfin des mots qui me paraissaient essentiels par rapport au texte de Bosco. Et chaque élève était invité, sans retourner au texte, hein, à dire 2 mois après ce dont il se souvenait. Il n'était pas obligé de remplir toutes les cases, et il y avait quelques cases vides où il pouvait mettre ce qui l'intéressait. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais simplement citer quelques petits écrits, hein, dans ces cases. Donc, vous voyez, à chaque fois, ce sont des écrits très brefs. Par exemple, Vanessa, qui avait un amour tout particulier pour le vent, hein, reprend à la case R, elle transforme vent. Le vent nous fait vivre, alors il faut l'aimer. Floriane. Le vent avait l'air doux. Je pense même que les cheveux des enfants étaient pleins de vent. Et ça me renvoie aussi là au sujet sur le vent, hein, proposé dans la liste que tu nous avais montrée hier. Bon, un garçon, lui, restitue autrement. Le vent emportait la barque. Le courant était plus dangereux. Bon, donc chacun se projette, hein, tel qu'il est dans cette reformulation du texte. Et puis j'en ai déjà parlé ailleurs, ce que permettent ces petits écrits, pour peu qu'ils soient dialogués dans la classe, c'est une explicitation tout à fait intéressante. Bon, les élèves peuvent prendre appui sur ces écrits très très intimes, très personnels, et après développer plus facilement en classe lorsqu'on les convie à le faire. Hein. Le souvenir que j'ai gardé, hein, c'est ça, ce garçon qui dit dans une case il avait parlé de Gazzo. Alors Gazzo, il vient de la rivière ou de la forêt, plus précisément c'est un sauvage naturel. Et ce qui m'a touché, le moment qui m'a touché, c'est quand grand-père Savinien meurt et que Pascalet devient Gazzo. Alors là, ça c'est curieux, parce que dans le texte de tel que l'écrit, en tous les cas, Bosco, littéralement, Pascalet ne devient jamais Gazzo. Sauf que, alors je lui demande de s'expliquer, d'affiner sa pensée. Alors il me répond, c'est-à-dire qu'il avait fait aussi une flèche Pascal et Gazzo qui allait dans les deux sens, si vous voulez. Donc, je lui dis, Pascalet devient Gazzo, Gazzo devient Pascalet, d'après ton schéma. Alors, il me dit non. C'est Pascalet qui a envie de devenir Gazzo, autrement dit, cet enfant timide qu'est Pascalet se projette dans l'image d'un enfant bien plus aventureux, sauvage. Mais pas l'inverse, parce que Gazzo ne peut pas rêver d'être Pascalet. Gazzo, c'est ce que Pascalet rêve de devenir. Et voyez comment cet enfant arrive, je dirais, à déployer un petit peu le système, enfin, énonciatif de Bosco, avec une grande justesse, et dans le cadre, hein, de ce dialogue entre ses écrits, la classe, et puis l'enseignant. Voilà. Alors. Et à l'issue de ce travail, hein, dans cette classe, classe de campagne, là, pas spécialement dans le Pas-de-Calais, enfin pas spécialement milieu favorisé, hein, enfin il n'y a pas que des pauvres dans le Pas-de-Calais, mais enfin il y a quand même des poches. Pour les enfants, on a lu là, alors ce qu'ils considèrent comme un roman, et mais je trouve que c'est une histoire, disent certains. Hein. Enfin, ce roman, il est magnifique. Cette histoire, à quoi sert-elle? Je leur avais demandé. Elle sert à nous faire rêver des aventures. Où j'ai bien aimé parce que les personnages jouent bien leur rôle. Cette histoire m'est allée droit au cœur. Et on voit bien qu'il n'y a pas confusion du tout entre réalité et fiction. Enfin, je dirais encore, il y en aurait une. Je ne sais pas si ça serait si problématique que ça, en l'occurrence. Hein. Mais on voit bien qu'il y a à la fois distance et projection. Hein. Voilà. Alors, j'ai encore le temps de parler 5 minutes. Voilà. Parce que pour pas manger le... Bon, bah, Christelle, si
5 minutes.
Bien. Oui. Alors,
je vais même t'aider.
Merci, Christelle.
Lequel, si tu veux.
Bah, les
tout.
Deux.
D'accord.
Oui. Ce que je veux dire... Bien sûr, c'est que ça ne s'installe pas comme ça dans la classe spontanément et que tout dépend bien sûr de la relation pédagogique passée avec les élèves, peut-être de la relation aussi de l'enseignant à la littérature et à son enseignement. Et pour terminer, je voudrais opposer deux documents. Alors, ça se passe toujours à Vesoul, là, c'est une classe où il y a 3 enseignants de CM qui ont travaillé ensemble hein, à la préparation d'une séquence, d'un travail sur La Petite Sirène d'Andersen. Et ça, on est arrivé à la fin, et on est aussi à ce moment de reprise, 2 mois après la lecture du texte. Et bon, j'étais revenue avec mon tableau, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis en fait, ça a été là aussi, ce qui est c'est intéressant, c'était transformé par les enseignants, et je dirais enrichi, parce que le conseiller pédagogique a eu l'idée de confronter, si vous voulez, les souvenirs des élèves à des reproductions de tableaux. Des tableaux généralement pas vraiment illustratifs, enfin, certains illustratifs, d'autres moins. Bon, vous avez la liste des tableaux qui figurent sur la double page. Et voilà ce qu'elle suggère. Eh bien, de demander aux élèves de choisir parmi les 12 reproductions 4 qui leur parlent peut-être. Enfin, elle dit, en tous les cas, 4 qui vous renvoient à ce que vous avez ressenti à certains moments de la lecture d'Andersen. Bon, les élèves ont travaillé. Alors, ça donne, voilà, les 2 résultats, si vous voulez, dans 2 classes parallèles. Alors, je sais pas si on commence par, on va commencer par celui qui est bien réussi, je trouve, et où l'enseignant a joué le jeu. Les élèves ont choisi et ils ont écrit. En quoi cette reproduction leur rappelait ce qu'ils avaient ressenti. Alors bon, Julien, le proverbe turc de Dietmann.
Tu commences ici.
Ah bon, oui. Bon, les idées claires de Magritte, pardon. Donc on voit un rocher, on voit la mer, un rocher. En regardant la reproduction, je ressens de la différence et le changement. Continue, les passages d'un monde à l'autre. Proverbe turc. En la regardant, je ressens de la peur et de la solitude. Le sacrifice de la petite sirène. Portrait d'Annette de Giacometti. En la regardant, je ressens de la patience et la mort. L'attente de sa mort. Number 3. Pollock. En la regardant, je ressens des choix incompris. L'univers de la sorcière. Là, c'est un garçon. Après, Maëlys. Les idées claires de Magritte. Je ressens de la légèreté, comme quand la petite sirène devient fille de l'air et le passage d'un univers à l'autre. Idole féminine, là c'est une statue primitive. J'ai l'impression que cette statue ne peut pas parler, mais qu'elle voudrait dire quelque chose, comme quand la petite sirène parle au prince avec ses yeux. Portrait de Modigliani. J'ai l'impression que la personne qui est dessinée n'est pas complète, comme si elle se sacrifiait. La petite sirène, elle aussi, s'est sacrifiée dans l'histoire. C'est pour son prince. J'ai l'impression que cette personne aussi. Rimbaud, bon, etc. Donc, vous voyez, il y a un peu projection Bien sûr, projection de soi dans la lecture, projection dans la lecture de, enfin dans la lecture du texte, projection dans la lecture de l'œuvre d'art de ce qu'on s'est construit à partir du texte et à partir de soi, hein, et enrichissement progressif. Et chacun parvient à dire des choses, y compris. Alors j'ai mis Aurélien, un élève en grande difficulté, hein, dans la classe. La belle ferronnière de Léonard de Vinci. La photo 10 me fait penser à la petite sirène quand elle a bu le breuvage de la sorcière. Figure de l'ombre. La photo 16 me fait penser au sacrifice de la petite sirène pour sauver le prince. Le baiser de Klimt me fait penser à la petite sirène qui sauve le prince quand son bateau coule. Et Rimbaud, donc l'œuvre 13, me fait ressentir au prince et à la petite sirène qui est morte. Bon, et j'irai, et même s'il y a, elle me fait ressentir... C'est d'ailleurs c'est revenu plusieurs fois chez plusieurs élèves, cette invention, hein, verbale, me fait ressentir à, qui est à condenser de réfléchir à, rencontrer, et ressentir. Voilà. Alors, je ne vais pas lire, vous lirez vous-même, les productions dans l'autre classe, où le maître a tout simplement reformulé la consigne. À quel moment de l'histoire, à quel personnage, à quel lieu, à quel événement de la petite sirène, chacune de tes images, de ces images, te fait penser ? Et bon, et on a bien sûr des choses qui sont beaucoup moins, des productions qui sont beaucoup moins personnelles et manifestement une appropriation du texte, une rencontre du texte qui, en tous les cas, n'arrive pas à se formuler de façon aussi riche. Hein, voilà. Alors je vais arrêter là et je dirais que parfois on a l'impression de faire la même chose et on ne fait pas du tout la même chose. Hein, et là, c'est bon. On n'en a pas toujours conscience non plus, parce que le maître de la deuxième classe a vraiment le sentiment d'avoir fait la même chose que le maître de la classe précédente. Donc c'est là-dessus qu'il nous faut travailler en tant que formateur, quoi, la conscientisation, hein, de notre posture et de ce que nos consignes induisent comme posture d'élève. Je passe la parole à Christa.
Merci bien. Donc, je vais vous présenter donc un aspect aussi de l'article que nous avons écrit dans le repère 34 qui vous a été offert donc tout à l'heure. Et j'ai choisi donc de développer un aspect qui n'est pas tout à fait retranscrit dans l'article, mais vous verrez beaucoup vous pourrez mettre en écho ce qui a été écrit et ce que je vais vous dire maintenant. Donc, c'est un dispositif dans lequel les écrits de soi trouvent leur place dans l'enseignement apprentissage de la lecture littéraire au cycle 3, comme le disait Daniel. Donc j'appuierai mon analyse sur la recherche que nous conduisons ici en m'appuyant sur les travaux de la classe de Christine Fouchard. Donc c'était les travaux sur qui vous ont été présentés sur l'enfant et la rivière, qu'elle fait lire en ce moment à ses élèves. Ce que je vous présente, moi, a été fait en mars de l'année dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, on l'a peut-être pas assez dit, ce qu'on vous dit là, ce sont les dispositifs ordinaires de la classe, c'est-à-dire que la recherche ne demande pas de travailler de telle ou telle manière. Hein, nous leur donnons des textes, enfin nous leur suggérons des textes à lire, mais à partir de cela, ils mettent en œuvre de la manière qu'ils souhaitent. Hein, l'intérêt étant qu'on puisse recueillir la diversité des pratiques et les mettre en dialogue. De l'école à l'université. Alors c'est une classe, comme je vous le disais, d'enfants qui relativement favorisée par rapport à bien d'autres que j'ai pu connaître par ailleurs en Seine-Saint-Denis. Mais enfin, je connais bien aussi Vesoul où j'ai habité, et c'est un endroit quand même où ces gens-là, si je puis dire, n'ont pas beaucoup d'argent pour la culture. Ça, il faut le savoir. On paye la maison, on paye tout ce qu'il faut aux enfants, mais on sort peu, on va peu dans les musées, on va peu au cinéma, on achète des livres si c'est nécessaire. Enfin, tout est fait, hein, pour l'enfant. Je veux dire, il y a un projet précis pour les enfants, mais les aspects culturels ne sont pas forcément très très développés. D'autant que Vesoul est assez éloigné des grands centres. Il faut aller à Besançon, hein, pour pouvoir avoir accès à beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est dans le dispositif ordinaire de la classe que ce que je vais vous présenter se situe, et les écrits de soi là, en tout cas ce qu'on va voir là, permettent non seulement de mettre au jour la diversité des réceptions des poèmes, puisqu'il s'agit de poèmes dont je vais vous parler, et aussi donc de comment dire, de concrétiser les moments de méditation personnelle dont parlait Daniel tout à l'heure, des moments de maturation qui sont nécessaires, en tout cas c'est comme ça que Christine Fouchard les juge, les qualifie, après les débats foisonnants. Hein. Vous savez que c'est une des remarques qui remonte du terrain en ce moment, c'est que bien sûr ils font lire les textes, les collègues font lire les textes, ils font des débats, mais des débats ça part dans tous les sens, vous savez c'est l'expression qui est toujours utilisée, et donc il y a après une certaine angoisse de qu'est-ce qu'on retient de tout ça, comment ça se passe et tout. Et donc là, ça se situe juste après les débats, hein, tout ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, le plan de mon intervention, c'est tout d'abord de vous montrer ce dispositif global qui s'étend sur 6 semaines pour la lecture de Demain dès l'aube de Victor Hugo. Alors, on quitte un peu la question de la littérature de jeunesse qui a été évoquée ce matin, mais nous définissons littérature de jeunesse, tout ce qui peut être lu par de jeunes lecteurs. Hein. Donc, Demain dès l'aube de Victor Hugo. Donc, ça, c'est mon premier point, le dispositif. Ensuite, quels écrits en jeu ont été mis en œuvre à cette occasion-là? Et si j'ai le temps, un petit mot sur le statut didactique de ces écrits. Alors, je vais vous montrer le dispositif. Alors, Martine va vous le distribuer, comme ça vous pouvez être tranquille et regarder ce que je souhaite vous montrer. Donc, moi, je n'utilise pas les outils modernes. Hein, donc, j'ai affiché de mettre un tableau sur un PowerPoint. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais peut-être qu'il faut que j'éteigne. En tout cas, vous allez la voir. Alors, de toute façon, vous n'allez pas être frustré. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est comment lire ce tableau. Vous m'entendez? Oui. Donc, vous voyez que ça va du samedi 3 mars au samedi 15 avril. Alors, c'est toujours des samedis parce que son fils, ça se passe beaucoup le samedi parce que le fils de l'institutrice vient filmer et nous on avait demandé d'avoir un certain nombre de documents aussi vidéo, donc voilà, vous verrez, il y a beaucoup de choses le samedi. Donc du samedi 3 au 15 avril, ça veut dire 6 semaines pour la lecture d'un poème. C'est pas anodin, je veux dire qu'on peut pas écrire forcément non plus, si c'est faut faire vite, enfin on a besoin aussi de méditer, etc. Bon, donc ça prend 6 semaines. Alors vous voyez, ça se lit, donc les activités sont reproduites dans les colonnes, et j'ai mis en gras tout ce qui concerne plutôt l'écriture. Vous voyez un petit peu? Mais alors ce qui m'intéressait de vous donner, c'était le tableau, pour que vous puissiez voir la circulation. Alors si on se met samedi 3 mars, donc on découvre Demain dès l'aube, par dévoilement progressif, il y a un débat, et on se lance sur qui est Victor Hugo. Bon. Et ça se termine par noter votre interprétation du poème à partir de la grille partition. Alors j'y reviendrai, hein, sur tout ce qui est en bas, bien sûr je vais le développer après. Jeudi 9, ce qui est demandé, c'est un écrit aussi, qui est très en lien avec noter votre interprétation. Hein, c'est la suite de noter votre interprétation. Samedi 17, donc 2 semaines après la lecture silencieuse du poème, on vient dire son interprétation du poème, on présente aux autres, et en même temps on en profite pour présenter les recherches sur Victor Hugo qui ont été faites sur Internet. Et en même temps, la maîtresse dit, bon, puis en même temps, je vais donner aussi quelque chose sur Musset, parce que Musset n'écrit pas comme Victor Hugo, et c'est bien que je leur montre aussi qu'il y a autre chose, et elle met, on va pas faire le romantisme, mais quand même, je veux voir qu'il y a autre chose. Voilà, elle dit ça sur sa préparation, et ils lisent Tristesse, ils reformulent, et après, portez votre interprétation sur le poème Tristesse. Bon, tout ça s'est fait très très vite. Ce que je voulais dire aussi, Daniel l'a pas dit, mais l'écrit que vous avez vu, c'est un premier G, hein, sur le Bosco.
Oui, j'ai dit. Hein.
Tu l'as dit? Ah oui, bon, excuse-moi alors, j'étais tellement en train de trembler à côté que... Voilà. Ensuite, où j'en suis là? Oui, alors le 20, on vient dire soit Demain dès l'aube, soit Tristesse, selon l'interprétation choisie. Et là, la maîtresse suit son idée, vous voyez qu'elle a quand même une idée, c'est quel mot définirait le mieux le poème de Victor Hugo, et les mots sont impuissance, désespoir, tristesse, vie, colère, etc. Et l'après-midi, ensuite, écrivez sous forme de poème à partir du mot qui exprime le mieux pour vous ce que vous ressentez en lisant le poème de Victor Hugo. Et dans cette classe, on utilise le mot brouillon sans problème. Brouillon, correction, mise en page dans le cahier de mémoire. Alors, cahier de mémoire, c'est important, hein, dans le dispositif, mais je reviendrai après. Samedi 24, on change de registre. On présente là un album arbre, parce que par ailleurs, ils avaient fait un herbier et ils s'étaient rendu compte que dans les herbiers, les mots étaient écrits en latin. que c'était autre chose, enfin qu'on n'écrivait pas comme ça, n'importe quoi. Alors donc, ils étaient allés aux archives, parce qu'elle fait aussi tout ça en même temps. Enfin, ces choses se croisent, hein, de différentes. Et là, ils avaient, comme le conservateur avait entendu qu'il travaillait sur un herbier, il leur avait sorti un herbier, mais alors, je ne sais plus, c'était 12 ou 1300, la date de cet herbier, donc magnifique, il leur avait sorti, il leur avait montré, et les gamins avaient repéré les lettrines, et ils avaient envie d'en faire. Alors, bien, ben on fait, alors on revient, et elle dit, reprenez votre poème et faites une lettrine pour la première lettre du titre, attention, respectez le thème de votre écrit. Le vendredi 30, on passe à déjeuner du matin, sans qu'elle nous dise la raison, hein. On passe à déjeuner du matin, débat, et notez votre interprétation. Donc vous voyez qu'il y a toujours des rites, hein, des écrits qui sont très ritualisés. Le samedi 8, on prépare une exposition parce que elle y tient tout le temps à défendre l'aspect culturel de son école. Elle est aussi directrice. Donc préparer une exposition poésie dans l'école à partir de la valise de livres prêtés. Et là, elle leur dit, après ça, parce qu'il y avait beaucoup d'effervescence et tout, pour les calmer, elle leur dit, on va écouter les deux poèmes, l'un par Michel Bouquet, l'autre par Marlène Dietrich. Et là, ils deviennent critiques de ce qu'ils entendent là, alors qu'ils l'ont fait, eux, dans le samedi 17 et les jours d'avant. Et enfin, ils terminent par le Lavis, parce qu'ils avaient vu que Victor Hugo, dans les recherches sur Victor Hugo, ils avaient vu que Victor Hugo était aussi artiste, illustrateur, enfin. Donc, ils ont fait comme lui. Bon, voilà. Ça, c'était le dispositif. Alors, très vite, je vous donne l'alias d'écrit. Et en 10 minutes, maxi, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah, mais si, c'est Martine qui les a. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire donc tout de suite, c'est que vous les avez les écrits, non? Mais j'attends un petit peu que vous les ayez. Donc un mois et demi quand même. Je crois que c'est important, un mois et demi, parce que ce que vous avez voulu exprimer là, c'est la fin de ces 6 semaines de maturation, hein, des choses. Donc un mois et demi. Mise en perspective, on remarque aussi par le tableau, en attendant que les textes arrivent, on remarque aussi la mise en perspective des écrits personnels qui se situent sur la partie basse du tableau avec les autres activités. Donc les écrits sont insérés dans un ensemble d'enseignements-apprentissage plus vaste. Les sciences avec l'herbier, les archives, le manuscrit, l'histoire aussi, l'histoire littéraire. Victor Hugo, c'était très important parce qu'il travaillait cette période-là en histoire. Donc le rôle qu'il a eu pour l'enfance, etc. Tout ça s'est débattu, tout ça est mis ensemble. La mise en scène des poèmes par des comédiens et les arts visuels, tout est repris, je dirais, dans une construction culturelle englobante. Alors, les écrits en jeu, maintenant, est-ce que vous les avez? Vous les avez? Vous avez l'alias? Elle arrive? Bon. Alors, l'écrit numéro 1, le document numéro 1, pardon, que vous avez dans votre lias, c'est un outil qu'ont les élèves, qu'ils ont toujours dans leurs affaires. Cet outil leur permet de noter, après les débats, leur propre interprétation. Et si vous tournez la page, vous avez un exemple de ce qu'on appelle dans cette classe l'interprétation. Alors, on n'a pas le temps, mais vous regarderez. C'est tout à fait intéressant de voir où les enfants mettent des pauses, pour quelles raisons, etc. Enfin, vous tournez la page, pas la page directe, celle de suivante, je crois. Le document 2. 3. Document 3. L'interprétation de tristesse. Vous voyez à quoi sert cet outil? Donc, l'outil permet aux élèves de transcrire sur le poème à l'issue de la lecture leur propre lecture du texte. Ça va? Vous avez l'exemple avec tristesse. Bon, je n'ai pas l'exemple, je n'ai pas le document pour demain des loups. Maintenant, je reviens au document 2. Alors, je vais peut-être quand même dire un mot sur ce document 1, ou sur le document 3, en fait. C'est-à-dire que la maîtresse donne dans cette classe un outil pour permettre aux élèves de noter très vite, en relisant le texte, leur propre ressenti, peut-être modifié par le débat, mais de façon à ce que ça ne se perde pas. Et ce faisant, elle amène aussi les élèves à relire le texte, ce qui n'est pas inintéressant dans les perspectives qui nous occupent en lecture littéraire. Bon. J'en viens au document 2. En quelques lignes, exprime le choix de ton interprétation. Alors, on a là l'exemple d'un écrit personnel qui permet de faire, je dirais c'est en deux temps, que, enfin cet écrit arrive après une sorte de bilan personnel que l'élève fait de ce qui a été dit, donc en fait ce que Daniel a appelé méditation, avant de se mettre à noter son propre sentiment par écrit. Alors, j'ai pas pu vous photocopier tout, mais ces écrits-là prennent des formes tout à fait différentes. Certains font des listes, etc. Enfin, ce sont des écrits tout à fait personnels. Ils sont pas normés par la maîtresse. Elle attend pas d'avoir telle ou telle forme d'écrit. Elle attend surtout qu'ils disent ce qu'ils pensent eux. Alors, ce que je voulais dire là, vous avez l'exemple de Florian. Alors, Florian, lui, choisit dans son écrit une interprétation extrêmement minoritaire de « Demain dès l'aube » parce que il choisit le trajet, si je puis dire, de la tristesse de Victor Hugo qui part sur la tombe de sa fille et à la joie de la retrouver, même morte, à la tombe, quoi. Mais on a eu, bien sûr, d'autres... C'était une interprétation très minoritaire et vous voyez qu'il l'a gardée. Ça, une jeune élève avait très bien dit que ce poème de Victor Hugo, on ne pouvait pas avoir la même impression si on le lisait la première fois ou les autres fois. Parce que la première fois, on était très surpris. C'était comme un coup de théâtre final qui arrivait. Mais la deuxième fois, c'était pas la même impression. Alors, est-ce qu'ils allaient écrire leur première impression, leur deuxième impression? Enfin, c'était très, très intéressant de voir comment les relectures aussi étaient différentes, indépendamment d'eux-mêmes, hein, mais par la stratégie, là, pour le coup, de l'auteur. Alors, un autre élève avait écrit ceci. Je vous le dis quand même pour que vous puissiez voir que c'est tout à fait autre chose que l'exemple que je vous ai donné. J'ai choisi cette interprétation, donc cette mise en symbole, hein, c'est ça que ça veut dire à chaque fois. J'ai choisi cette interprétation car le texte est très triste. Quand on perd quelqu'un de sa famille, on est désespéré et on a envie de rejoindre cette personne qui nous manque. Je pense que c'est cela que Victor Hugo a voulu dire dans son texte. Sa fille lui manquait beaucoup. C'est pourquoi j'ai beaucoup mis le symbole de la tristesse et du désespoir. Bon, voilà un exemple d'écrit qui est tout à fait différent de celui que j'ai pu reproduire. Alors, je vais très vite parce que je sais que l'écrit suivant, c'était donc après la lecture de Tristesse. Écrivez sous forme de poème à partir du mot qui exprime pour vous le mieux ce que vous ressentez en lisant le poème de Victor Hugo. Donc, cet écrit-là, eh bien, on voit là que les deux poèmes de Victor Hugo et ceux de Musset deviennent ressources, hein, bon, un peu au sens où Jacques Crinon le définit tout récemment là. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette classe, l'inspiration est tout à fait autorisé, développé et enseigné. Ce sont des enfants qui disent tout le temps, mais qui s'inspire de qui? On l'avait vu beaucoup ces questions à propos de la petite sirène. Qui s'est inspiré de qui? Entre Disney et Andersen, qui avait eu le premier l'idée, puis finalement c'était ni l'un ni l'autre, il y avait encore d'autres avant qui avaient eu l'idée. Et finalement cette idée d'inspiration est tout à fait... et valoriser dans cette classe. Et donc, on donne du temps pour ensuite pouvoir reprendre tous ces éléments-là de manière un peu personnelle. Donc, les écrits, on voit là une autre manière de nourrir les écrits. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec les symboles, mais on a aussi là une invitation à s'inspirer de nos lectures. Et le fait qu'elle ait listé, que la maîtresse ait fait lister les mots solitude, mélancolie, etc., n'est pas anodin, parce que on remarque après dans les écrits qui sont produits par certains élèves qu'ils ont repris tous ces mots. Ils les ont repris à chaque fois. Même en valorisant un, ils l'ont repris dans les phrases, les mots, enfin dans les vers, les mots sont à nouveau réutilisés. Alors, l'écrit 4, alors vous avez vu après sur le la vie en dessous, l'enfant, alors ça je rejoins un petit peu ce que Daniel a présenté tout à l'heure, mais là cette fois-ci l'enfant est artiste lui-même et il choisit pas la reproduction de Magritte ou de Pollock ou de il devient artiste lui-même et il explique ce qu'il a fait. Et vous voyez que c'est tout à fait intéressant ça, parce que les enfants aujourd'hui placés devant la peinture contemporaine disent moi je comprends rien, ou je trouve c'est rigolo, mais au-delà de rigolo c'est tout ce qu'ils disent, et ils imaginent toujours qu'il a fait n'importe quoi, l'illustrateur, que le peintre a fait n'importe quoi, il a mis des taches et voilà, ça a fait beau, bon ben voilà. Alors que là ils disent que non, il y a toujours une intention, tout le monde a une intention, et même là au travers de ces lavis qui représentent peut-être rien pour nous, représente plein de choses pour eux. Notamment, il y a des textes magnifiques où l'enfant dit « J'ai fait une bouche retournée, remplie de larmes. » Enfin bon, et alors que nous, quand on regarde, bon, on voit des taches brunes et des taches noires. Bon, c'est tout. Hein. Alors, ils parlent aussi de la manière dont ils ont fait. Alors, ce que je dirais tout de suite, c'est... je reviens pas sur le statut des didactiques des écrits, j'ai pas le temps, je le comprends, mais je dis juste, parce que depuis ce matin, depuis hier, la question des classes freinées, je dis juste ça pour finir ces 30 secondes, le statut de la classe freinée a été interrogé, en tout cas cité, etc. Eh bien, moi je dirais que là, puis dans l'article de Reuter aussi, dans le Reuter qui vous a été offert, il y a là, il me semble, à interroger, parce que ces écrits en jeu, ces écrits personnel, qui aussi simple soit-il, mais en tout cas qui font que dans cette classe, j'oublie de le dire, cette classe, je vais le dire quand même, ces élèves-là, enfin, l'année précédente, cette année-là, les enfants de cette classe ont eu les meilleurs résultats aux évaluations d'entrée en sixième. Ce qui fait que ça a mis en difficulté les gens du collège, enfin, les professeurs du collège, qui maintenant ne veulent plus que ces enfants soient regroupés dans une seule classe. Ils les ont séparés pour que ça fasse locomotive. Mais ces écrits-là sont à peine retouchés. Je vous assure que c'est vrai. Ils écrivent comme ça. Mais ils écrivent sans arrêt. Sans arrêt. Je veux dire, la quantité d'écrits est aussi à analyser. Là, on n'a pas fait... mais elle est aussi analysée. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la classe, c'est une classe centrée sur le travail de l'enfant. La maîtresse parle peu, hein, beaucoup moins que moi, là, tout de suite. Et c'est une classe centrée sur le sens du travail. Vous savez, au sens des apprentis, moi, j'aime beaucoup ça. Le sens du travail, il y a un sens au travail. On va... dans ce sens. On fait, on illustre, on garde dans son cahier mémoire, on affiche tout ça et c'est pas... D'ailleurs, les PE en stage dans cette classe, ils sont très vite formés, hein, parce que les enfants disent c'est pas dans ce sens qu'il faut travailler, c'est autrement. C'est pas centré sur la compétition, vous le voyez bien, ou sur la recherche de la bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes pourvu qu'elles soient justifiées, donc on a le droit de dire de la joie à la tristesse, de la tristesse à la tristesse, de tout est possible, puisque c'est ça qu'on veut mettre en évidence, la diversité des réceptions. C'est un haut lieu culturel, tout est affiché, ça change tout le temps, il y a un cahier de mémoire, il y a des expositions, on sort, on va aux archives, on fait venir, on écoute, on n'a pas les moyens de recevoir, parce qu'on reçoit pas trop les gens, hein. Elle fait tout elle-même, mais elle apporte des DVD, des disques, des choses de cet ordre. Les élèves, elles bricolent des choses et ça marche bien. Les élèves, ce que je dirais, rien que sur l'exemple qui est là, ils sont tour à tour exécutants, quand elle dit vous faites ça, créateurs, chercheurs, conférenciers, auditeurs, critiques, ils passent par tous les rôles et ça, on sait que c'est capital dans la réussite scolaire. Et elle, la maîtresse, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle est? Bon, elle est solidement plantée, elle est extraordinaire, c'est un vrai moment de bonheur quand on l'écoute, mais elle respecte ses élèves et elle les écoute pour de vrai. Et je reprends l'expression de Daniel, qui est vraiment une très belle expression, elle a l'intelligence de ce qui se dit. Elle dit pas tout de suite qu'est-ce que t'es en train de me dire, comme je vois quelquefois, mais avec et comme j'ai pu faire aussi moi, très vite en disant mais enfin qu'est-ce que t'es en train de me dire. Elle dit mais ce que tu dis là, on ne le comprend pas, donc c'est quand même plus valorisant pour les élèves de se dire ben oui attends je vais te le dire pourquoi je dis ça. Donc elle favorise le maximum d'échanges, mais surtout dans un espace sécurisant et une présence sécurisante. Voilà. Et donc, je dirais que tout ça mis bout à bout, eh bien, ça fait que l'écrit dans ces classes-là, eh bien, permettent aux enfants leur expression, l'expression de leur singularité dans la communauté de lecteurs. Voilà.